Une maxime familière, certes, dit ceci. La culture, c'est comme la confiture. Vous pouvez remplacer la confiture par la tapenade pour les Provençaux. Moins on en a, plus on l'étale. Appliqué à notre sujet de ce soir, la foi, cela pourrait donner ceci. La foi, plus on en a, plus on doit la partager. Mais ça marche aussi à l'envers. La foi, plus on la partage et plus on en a. Pour en parler, trois parties. Premièrement, témoigner n'est pas une option. Deuxièmement, annoncer quoi, ou plutôt annoncer qui. Et troisièmement, quelles dispositions intérieures. Donc, première partie, témoigner n'est pas une option. Rappelons pour commencer que l'évangélisation est la mission du baptisé. Vatican II a réaffirmé la double vocation du baptisé. Vocation à la sainteté, mais aussi vocation à la mission. Le baptisé n'a pas une mission d'annonce qui est optionnelle, il est missionnaire par essence. Si l'on peut dire, cela fait partie du package. Je vous renvoie à l'exhortation apostolique Evangelii Nuntiandi du pape Paul VI en 1975 sur l'évangélisation dans le monde moderne. Dans Matthieu 28, 19, le mandat missionnaire de Jésus est tout à fait explicite. Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et Saint Paul, pour enfoncer le clou, nous dit ceci, « Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. » J'ajoute ensuite que le cœur de cette évangélisation, c'est le témoignage personnel. Guillaume l'a suffisamment dit. L'évangélisation ne consiste pas à convaincre, à enrôler, à faire adhérer. La joie de l'Évangile nous dit ceci au paragraphe 35. Une pastorale en termes missionnaires n'est pas obsédée par la transmission désarticulée d'une multitude de doctrines qu'on essaie d'imposer à force d'insister. François nous dit aussi que l'Église ne grandit pas par prosélytisme, mais par attraction. D'ailleurs, dans son homélie du 8 novembre dernier à Sainte-Marthe, donc c'est tout frais, il a rappelé que c'est le témoignage qui attire et non les paroles. Donc le témoignage, ce n'est pas une simple parole. Évangéliser, c'est partager sa foi, témoigner de ce que sa foi change dans notre vie. La joie de l'Évangile, paragraphe 264, dit ceci, « La première motivation pour évangéliser est l'amour de Jésus que nous avons reçu. » Soulignons enfin que conversion et témoignage missionnaire constituent un cercle vertueux. Se convertir, alors c'est ce que je disais en introduction avec cette maxime que l'on peut lire dans les deux sens, se convertir fait grandir le désir de témoigner. Dans son exhortation toute récente sur la sainteté, Gaudete et Exultate, le pape François dit « La sainteté est une incitation à l'évangélisation. » Donc si je me convertis, mon désir de témoigner grandit. Et à l'inverse, témoigner renforce la foi, fait grandir le désir d'une vie cohérente et d'une plus grande intimité avec le Seigneur. Le témoignage, c'est aussi un signe de maturité de notre foi. Deuxième grande partie, pour annoncer quoi, ou plutôt pour annoncer qui. Je voudrais rappeler tout d'abord que l'annonce explicite ne peut se passer d'un témoignage implicite. Dans mon intervention, il y a une quinzaine de jours, sur la parole de Dieu, je disais que le témoignage implicite, c'est de l'ordre du signe non-verbal. Donc au niveau personnel, ma vie témoigne-t-elle du Christ, mes choix, mon comportement, etc. Benoît XVI le dit ainsi, le témoin du Christ ne transmet pas simplement des informations. À travers la cohérence de sa vie, il devient un point de référence fiable. De même, est-ce que je peux parler de Jésus aux autres si je ne vis pas moi-même une vraie intimité avec lui? Ce que Benoît XVI dit comme ceci, la prière et notre amitié personnelle avec Jésus sont fondamentales. Seul celui qui connaît et aime Jésus peut introduire ses frères dans une relation vitale avec lui. Et au niveau communautaire, c'est l'importance du témoignage de la vie fraternelle. Je vous renvoie à Jean 13, 34, 35. Ensuite, témoigner, pardon, cela passe nécessairement par l'annonce du kérigme. Guillaume l'a dit, donc je ne vais pas insister. Je rappelle simplement que le kérigme est le cœur du témoignage et qu'il a une force en lui-même. Dieu, personne ne l'a vu. Jésus, si. Donc, comme Marie, nous sommes là pour montrer Jésus qui nous mène au Père. Le pape François, dans la joie de l'Évangile, le dit ainsi, « L'annonce fondamentale, l'amour personnel de Dieu, qui s'est fait homme, s'est livré pour nous et qui, vivant, offre son salut et son amitié. » En complément du kérigme, nous sommes appelés également à partager la parole. Mais évidemment, il ne s'agit pas de la partager de manière automatique, machinale, un peu comme peuvent le faire certaines sectes qui font du porte-à-porte. La parole n'est pas un catalogue de recettes, de réponses toutes faites. Je voudrais simplement vous rappeler ce mot du prêtre référent pour la mission dans le diocèse de Paris, je le citais l'autre jour. La parole assume toutes les situations de l'existence, de l'homme devant Dieu. L'enjeu est de communiquer quelque chose de cette parole à la personne pour qu'elle comprenne que cette parole parle d'elle. Enfin, le témoignage personnel passe par le partage de notre propre expérience de l'amour de Dieu. Le Père Théry en dira peut-être un mot après, j'espère. Voilà. Maintenant, dans une troisième partie, voyons comment témoigner. C'est la question « Quelle disposition intérieure ?» Alors pourquoi j'utilise cette expression « Quelle disposition intérieure ?» Parce que dire « Comment témoigner ?» ça pourrait laisser penser qu'il y a d'abord des techniques, des procédés, des recettes. Or, nous ne sommes pas dans ce registre. Nous devons tout d'abord laisser l'Esprit-Saint nous conduire. La Bible et Guillaume le disent très clairement. Dans l'évangélisation, c'est l'Esprit-Saint qui fait le job. Donc, il faut croire à cela et notre travail consiste à le laisser faire. Voici ce que dit Evangelii Nuntiandi. L'Esprit-Saint est celui qui, aujourd'hui, comme au début de l'Église, agit en chaque évangélisateur qui se laisse posséder et conduire par lui, et met en sa bouche les mots que seul il ne pourrait trouver, tout en prédisposant aussi l'âme de celui qui écoute pour le rendre ouvert et accueillant à la bonne nouvelle. Cette attitude, qui consiste à laisser l'Esprit-Saint agir, elle nous demande d'aller à l'encontre d'une double logique dans laquelle nous pouvons être prisonniers, c'est la logique de la sécurité et la logique de l'habitude. Donc pour cela, je vous invite à lire « Gaudete et exultate » qui développe ce point, c'est très intéressant. Je voudrais rappeler ensuite que nous devons témoigner avec charité. C'est une évidence, mais il est bon de le rappeler. Ce témoignage avec charité est complémentaire du témoignage de vie. Si, d'une part, ma vie est un contre-témoignage, et qu'en plus, je suis aimable comme une porte de prison quand je parle de Jésus, bonjour. En témoignant, nous pouvons aussi nous laisser habiter par la joie, par l'humilité, par la proximité. Et enfin, avant le témoignage proprement dit, il y a l'écoute. Évangéliser, c'est d'abord écouter, rejoindre, dialoguer. Ce que le pape François dit en ces termes dans la joie de l'Évangile, au paragraphe 128. Le premier moment consiste en un dialogue personnel où l'autre personne s'exprime et partage ses joies, ses espérances, ses préoccupations. Beaucoup de choses qu'elle porte dans son cœur. C'est seulement après cette conversation qu'il est possible de présenter la parole, que ce soit par la lecture de quelques passages de l'Écriture ou de manière narrative, mais toujours en rappelant l'annonce fondamentale. Pour conclure, nous l'avons à présent tous bien saisi, notre mission de baptiser, c'est de témoigner. Décidons donc d'entrer dans ce processus vertueux qui va faire grandir notre foi et notre intimité avec le Christ. Et faisons comme la confiture, sortons de notre bocal.